C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, budget fédéral, bien sûr, ça s'impose ce matin. Taxer les plus riches. On sait que, par exemple, pour le gain en capital, que ce soit des actions, entreprises ou encore le chalet, ben quand on va dépasser le 250 000 $, ça va coûter plus cher. Est-ce que c'est une bonne idée, Nathalie?
Ben, politiquement, c'est toujours payant de faire taxer les riches, hein, de faire payer les riches, les maudits riches. Hein. On aime ça les haïr au Québec puis au Canada, les riches. D'ailleurs, depuis 2015, c'est ce que fait Justin Trudeau, faire payer les riches. Sa politique fiscale est en étant une tournée vers le soulagement de la classe moyenne. Là-dessus, il y a de la constance dans les idées. Hier, tu l'as dit, Paul, il a décidé d'utiliser le véhicule de l'impôt sur le gain capital pour aller chercher 19 milliards de nouveaux revenus d'ici 5 ans. Ça peut sembler une mesure abstraite pour bien les auditeurs ce matin, parce qu'on dit que c'est une mesure qui va toucher 0,13% des plus riches, mais c'est pas si abstrait que ça. Sylvain, un propriétaire d'immeuble, m'a écrit un peu plus tôt pour me dire que la nouvelle modification là, du gouvernement fédéral va lui coûter 22 000 $ de plus en gains, en impôts, c'est-à-dire pour gain de capital lorsqu'il va vendre ses immeubles. Pour lui, ça représente 25 000 de plus par tranche de 500 000 de gain en capital. Fait que je peux-tu vous dire qu'il n'est pas babette de bonne humeur ce matin? Il y aura deux choix. Soit il va probablement vendre ses immeubles plus tôt, mais il m'a dit, je vais peut-être aussi choisir d'augmenter mes loyers. Alors, tu vois, ça, c'est un exemple très, très concret. L'autre, il y a deux choses qui m'ont frappé hier dans le budget. La première, c'est trois choses, en fait. La première, un gouvernement qui est préoccupé davantage de répartir la richesse que de la créer. Deuxièmement, on dit souvent que le gouvernement fédéral, c'est un gouvernement qui est loin du quotidien des citoyens. Hein. C'est un palier qui s'occupe des grandes orientations à l'échelle nationale, mais jamais gouvernement n'a adopté des mesures comme celle du gouvernement Justin Trudeau, des mesures qui touchent justement le quotidien des citoyens. Là. Énormément de programmes ont été créés. Là. Hier, le gouvernement nous a dit on va améliorer la cote de crédit pour les locataires. On a annoncé un programme de soins dentaires, assurance médicaments, des subventions pour les personnes handicapées, des bourses pour les jeunes dans le cadre d'un programme de régime d'épargne d'études. Enfin, bref, on a vraiment, le gouvernement de M. Trudeau a mis fin à une longue tradition par rapport aux autres gouvernements qui l'ont précédé. Et ça, c'est la deuxième chose qui m'a frappée. Et donc, redistribution de la richesse. Puis c'est beau créer des programmes, mais encore faut-il que tu travailles sur la colonne des revenus. C'est mathématique. Et l'autre chose qui m'a frappée, et je trouve ça vraiment plutôt cynique, le gouvernement nous dit, je vise une plus grande équité entre les générations, mais ce qu'il dit aux jeunes, c'est que savez-vous quoi? Vous allez devoir le payer, tout le déficit qu'on a créé depuis des années. Et le déficit, il est très important. 38,3 milliards l'an prochain. En 28-29, il sera d'un peu plus de 18 milliards de dollars. Puis il n'y a aucun plan de retour à l'équilibre. Alors moi, j'appelle pas ça de l'équité entre les générations.
Pour le taux d'inclusion des gains en capitaux là, qui passe de 50 à 65 moi, je pense qu'il aurait dû aller beaucoup plus loin. Par exemple, parce que ça, déjà, ça rapporte 18 milliards de dollars. Ça m'a quand même jeté par terre, là, 16 à 18 milliards. Hey, c'est de l'argent en Simonac. J'étais content de voir ça. Mais par contre, il y a un essaim de flippeux et flippeuses qui a traversé les quartiers urbains et ils ont toutes la même pratique. Tant qu'ils considèrent qu'ils achètent une maison qui devient leur résidence principale, mais tu as le droit de changer de résidence principale à chaque année au Canada. Donc, la rénove, la revente, et donc, zéro impôt. Tic, zéro impôt parce que c'est résidence principale. Écoute, ils font des 200, 300 000 par bâtisse, là. Ben, c'est comme ça que la ministre de l'Habitation s'est enrichie, d'ailleurs. C'est un vrai trou dans le budget, là. Ça, t'aurais pu aller chercher des milliards et des milliards. En disant, par exemple, on va imposer des gains en capitaux pour ta propriété, ta résidence principale, si elle a été acquise depuis de moins de 3 ans, par exemple, ou moins de 5 ans. Ben, il s'agit absolument pas d'imposer ta résidence principale d'une personne qui a économisé toute sa vie puis qui va la léguer à ses enfants. C'est pas ça le projet. Le projet, c'est les flippeux, les flippeuses. Alors, moi, je pense que là, il aurait pu aller chercher des milliards et faire des vrais programmes. Parce que quand tu regardes le programme, par exemple, moi, je l'ai regardé dans le détail. J'en ai choisi un. Je l'ai regardé dans le détail. Bon, j'en ai choisi deux, trois, mais je vais vous parler juste d'un. L'habitation. Ben, non, ils y arriveront pas. Ils arriveront pas avec les programmes qu'ils ont mis sur table. Là. Les programmes qu'ils ont mis sur table, là, on dit pluie de milliards, 8,5 milliards. Mesdames et messieurs, dans l'attente, le parc Belmont, 8,5 milliards. On va créer 3 millions de logements sans les mains. Mais non, mais
c'est qui dit mieux?
Ouais, exactement. mais ça se fera pas, là. Ça ne se fera pas. On va prendre deux programmes pour les comprendre bien, OK? Premier programme, celui qui permet, qui donne un prêt avec très faible taux d'intérêt de 40 000 $ maximum pour l'ajout d'une deuxième maison, donc résidence accessoire, sur un même terrain. Très, très, très bonne idée. Tu peux transformer tous les Canadiens qui ont des terrains, mettons, de 5, 6, 7 000 pieds carrés en arrière de chez eux, en entrepreneurs, et c'est génial. Tu construis une maison ou bien tu fais un ajout à ta maison. Je pense que c'est plutôt construire une maison qui est intéressant parce que l'ajout à la maison, généralement, ça se vend pas après. Mais toujours est-il que tu construis une maison supplémentaire sur ton terrain. T'es pas obligé d'avoir deux entrées d'eau, deux entrées d'égout, etc. C'est formidable. Deux maisons à même adresse. 40 000 $ à faible taux d'intérêt, mais une maison que tu construirais sur à 800-900 pieds carrés, c'est minimum 350 000 $. Est-ce que vraiment, en mettant un taux d'intérêt faible sur un prêt de maximum de 40 000 $, tu penses vraiment que des milliers de personnes vont faire ça? Non. C'est 40 000 $ d'intérêt. Un prêt de 40 000 $ à faible intérêt, ça te coûte 350 000. Non. Les gens ne feront pas ça. Par ailleurs, la plupart des municipalités empêchent ça. Donc, ça va prendre des années avant que les municipalités se disent, il y a Québec qui vient de l'annoncer, oui, on va permettre de le faire. Donc, c'est des programmes à long terme avec des petits incitatifs. Ça ne fonctionnera pas nécessairement. L'autre affaire, là, le très gros prêt de 8,5 milliards de dollars pour à faible taux d'intérêt pour les constructeurs. Ben ça, c'est bien. Ben d'ailleurs, il y en a déjà. On prévoit faire 30 000 logements de plus. Il y en a déjà 210 000 dans le pipeline avec ce programme-là. Mais attends, Nathalie, c'est que le prêt, ça te donne un prêt à faible taux d'intérêt parce que les taux de l'achat des terrains plus chers, les taux de construction sont les matériaux de construction sont plus chers, mais ça ne te donne pas des ressources en construction. Pourquoi ils ont juste mis 30 000 nouveaux logements dans ce programme-là? Parce que il manque le personnel pour construire. Il n'y a pas la main-d'œuvre pour construire. Fait que là encore, quand tu dis on va faire 3 millions de nouveaux logements avec ces programmes-là, non.
T'oublies dans ta liste le fait que le gouvernement fédéral va lui-même se transformer en constructeur. Là.
Oui, je vais t'en parler après.
Ben c'est ça. Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il veut construire 250 000 nouveaux logements d'ici 2031, à même entre autres ses terrains, les terrains de la Défense nationale et ceux de Post-Canada. Et en fouillant dans le budget, j'ai découvert que concrètement, là, il y aurait 100 nouveaux logements, 100 nouvelles unités, au 3155 chemin Côte-de-Liesse. Bassin Wellington aussi, c'est un secteur qui est visé pour construire. Il y a trois bureaux de poste au Québec qui sont visés, qu'on transformerait en logement. D'ailleurs, on va mettre la Société immobilière du Canada à contribution. Le bureau de poste de Trois-Rivières, celui de Beauharnois et celui de Roxborough. Alors, là, écoute, la question, il y a toutes sortes de questions là-dedans. Là. Est-ce qu'ils vont, à quel rythme ils vont réussir à livrer ça? Est-ce qu'ils vont mettre le secteur de la préfabrication en contribution pour y arriver? Est-ce que c'est le fédéral qui va gérer lui-même les chantiers? Ou il va déléguer sa responsabilité, par exemple, au provincial? Enfin, toutes ces questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Et pour tes flippeux et tes flippeuses, mon Luc, là, sache que le gouvernement de... Puis ça, c'est dans l'air. Est-ce que le gouvernement de M. Legault sera tenté de faire la même chose que le gouvernement de M. Trudeau? Ça reste à voir. La prochaine mise à jour économique est en novembre. Est-ce que, pour se donner une plus grande marge de manœuvre, est-ce qu'on sera tenté au Québec d'aller de ce côté-là, c'est-à-dire d'avoir un impôt sur le gain capital qui soit plus restrictif? La question est posée.
Pour le programme que tu évoques, Nathalie, est super bon. La cession de terrain, là, vois-tu, c'est une affaire que le gouvernement fait bien, là, c'est pas la défense. Hein. C'est ça. C'est excellent. C'est la SIC, ils travaillent très bien. Et justement, ils ont fait une annonce sur les bassins Wellington il y a deux semaines. Mais l'affaire, c'est que pour faire une annonce sur la pointe du Moulin, par exemple, la pointe du Moulin qui appartenait au fédéral, puis les bassins Wellington aussi au fédéral, ça a pris 10 ans. Puis, une fois, parce qu'ils travaillent très bien, ils font un plan de développement, ils disent, voici, on veut des maisons de telle grandeur, telle grosseur, du logement social, etc. Et c'est des beaux, beaux, beaux programmes. Mais de dire qu'on va faire 250 000 logements en 5 ans, alors que juste la pointe du Moulin, l'entente a été faite en 2018. Et qu'est-ce qui s'est passé après 2018? Envoyez-vous des bâtiments, vous, autour de la pointe du Moulin? Et pourquoi? Parce que le gars qui l'a acheté, il est en négociation avec la ville, elle a essayé pour modifier les conditions ou parce qu'il n'aime pas les conditions, etc. Donc, c'est arrêté. Et dans la vie, c'est ça qui se produit quand tu fais des programmes incitatifs. T'as pas la garantie que tu vas pouvoir construire le nombre de logements que tu dis que tu vas construire.
Dans le fond, ce que tu dis, c'est que le budget, c'est de dire, il y a ça de disponible.
C'est ça.
C'est un peu ça.
C'est ça. T'en plein ça.
Ouais. On s'arrête là-dessus. Au retour, le pont de l'île d'Orléans. Le FA Gautier n'étant pas disponible pour transporter le monde, on va dépenser 2,7 milliards. 2,7 milliards pour un pont, une voie de chaque bord. Moins de 2 kilomètres. c'est qui va faire la passe dans cette affaire-là? Voilà la grande question.
La commission Normando-Ferrandaise.
2,7 milliards pour le nouveau pont de l'île d'Orléans. On sait que l'autre est en fin de vie, là. Mais est-ce que 2,7 milliards, c'est pas un petit brin exagéré pour un pont de moins de 2 kilomètres? Luc.
Tu sais, quand on parle de milliards, on sait pas trop de quoi on parle. C'est tellement abstrait, c'est tellement gros. Fait que, on va essayer de le rendre un petit peu concret, là. Okay. 2,7 milliards remboursables sur 40 ans à 4 %. Bon. Plus les frais de maintenance. On va dire les frais de maintenance. Bon, là, sur une période de 40 ans, il va falloir que tu fasses 3 fois le pavage. Il va falloir que tu fasses des réparations à la structure 1 ou 2 fois. Fermeture du pont, l'éclairage, le marquage, la peinture, le sable, le sel en hiver, un peu de sécurité, 2-3 fils de communication si jamais il y avait un accident au milieu du pont, etc. Puis il va falloir que tu cherches, changes l'éclairage, mettons, de 1 fois et demie pendant la période. OK, moi, je calculais le grosso modo sur le coin de la table, là, sans mettre des gros chiffres, mais les chiffres conservateurs, c'est 40 $ par passage par personne, parce qu'il y a juste 11 000 chars qui passent par jour. 40 $ par passage par personne. Fait que si tu habites à Québec, t'as ta petite fermette sur l'île d'Orléans, puis t'habites à Québec, puis tu passes 2 fois dessus, c'est une subvention de l'État de 80 $ par jour, 400 $ par semaine, 1 600 $ par mois. Si vous êtes deux à faire ça, vous demandez à l'État une contribution de 3 200 $ par mois. Ben, à la limite, l'État pourrait dire, je te donne la moitié de cette contribution-là, va te construire à Québec. Le raisonnement consiste à prendre un papier, un crayon, ou alors aller sur un site de n'importe quelle caisse populaire puis de banque, puis calculer le taux d'amortissement d'un équipement de 2,7 milliards, ça donne ces chiffres-là. Et tu sais, même là, tous les autres coûts que je t'ai mentionnés, je les ai pas mis dans le calcul, juste l'amortissement. Ça coûte ça. Alors, c'est qui va utiliser ce pont-là? Ce matin, il y avait une longue liste de tout ce qui ne va pas au Québec, là, notamment, par exemple, les itinérants, ça déborde. On ne donnerait jamais une contribution de cette valeur-là, on ne le donne pas d'ailleurs, pour la construction d'une maison pour femmes battues ou pour des itinérants à Montréal. Pourquoi on le ferait pour des gens qui font du navettage jour et nuit? Matin et soir. On peut pas. Moralement, on peut pas.
C'est pas possible. Moi, j'en reviens pas d'entendre ce que j'entends. C'est la première fois que j'entends autant d'inepties, honnêtement, là, puis je dis en tout respect.
Ben non, c'est pas en tout respect, Nathalie, je m'excuse, je choisis un autre mot.
Non, mais honnêtement, je trouve que, en fait, ta première prémisse sur l'amortissement, ça va, je te suis. Mais c'est le raisonnement qui suit qui ne tient pas la route. Parce que si ton raisonnement, c'est de dire, ben écoutez, parce que tu vis sur une île, puis là, ben on vous subventionne pour construire un pont, c'est pas acceptable, c'est ce que tu sembles dire. Bien, à ce moment-là, on va arrêter de construire des ponts et des routes au Québec. Je veux dire, le Québec, c'est grand, puis il faut investir partout où les citoyens se trouvent. C'est comme ça. C'est une règle de base. Et ce qui enrage, et je le dis avec beaucoup de conviction, puis à Québec, dans la grande région de Québec, on en aura le pompon, que de Montréal, on questionne constamment la pertinence des projets d'infrastructure à Québec. Et honnêtement, là, on n'est plus capable d'en prendre. Ce pont-là, il n'est pas juste vieux, il est en décrépitude. Il a 89 ans. Il a été inauguré en 1935. C'est fini, on ne peut plus attendre. D'ailleurs, le gouvernement a trop attendu. Sur la complexité de ce pont, il faut le dire. On ne construit pas, contrairement à ce qu'on va faire avec l'île aux tourtes, là, il est beaucoup plus complexe parce qu'il est au-dessous du fleuve. Alors, tout le matériel, tous les équipements vont être livrés vont passer par la voie maritime plutôt que d'arriver par la voie terrestre. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les marées. Il faut tenir compte des marées aussi. Les marées qui peuvent atteindre 6 mètres de hauteur. La glace aussi, durant la période de construction. Pour répondre aux normes sismiques, il faudra planter des pieux dans le roc et le roc est à 80 mètres sous l'eau. Ça, c'est des éléments qu'on ne retrouve pas dans d'autres types de constructions.
Mais ça ne dit pas pourquoi ça coûte 2,7 milliards pareil.
Je viens de donner des explications. Ben, ce coût-là comprend les coûts de démolition.
Pourquoi c'était 400 millions il y a 10 ans puis que c'est rendu 2,7 milliards pour la même réalité? Moi, c'est juste ça. Moi, c'est pas la pertinence du pont. Je comprends que ça prend un pont, mais j'en arrive pas à me mettre dans la tête qu'on est rendu qu'une facture de 2,7 milliards.
Ben, le pont de l'île aux tourtes, Paul, c'est 1 milliard de plus que par rapport au coût de départ. Hein? Alors ça, on pourrait se demander pourquoi ça a explosé.
C'est 6 fois moins cher que le pont de l'île d'Orléans.
Oui, mais il y a des éléments de complexité
là, Nathalie,
qu'on n'a pas du côté
là,
regarde, de l'île d'Orléans qu'on va avoir du côté
mais Nathalie,
de l'île
Nathalie, la prémisse là, qui consiste à dire, quel que soit le coût, et puis tu as bien décrit le coût, tu as raison, là, puis je suis sûr là-dedans là, qu'il y a des embruns marins qui vont faire que la peinture, il faut que ça soit une peinture particulière.
Oui,
je suis sûr de tout ça, là. Mais quel que soit, toi tu dis, quel que soit le coût, il faut le construire pour 11 000 personnes. Moi, je te dis, si tu prends le même calcul pour toutes les autres catégories de clientèle à travers le Québec, tu arrives à des chiffres extraordinaires. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on met pas un pont entre Tadoussac et Sainte-Catherine? Pourquoi est-ce qu'on n'améliore pas la sécurité de l'autoroute 50? Pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas une voie pourquoi est-ce qu'on sécurise pas les routes dans les villages et dans les villes où il y a des écoles?
Parce que ce pont-là, Luc, il existe, il est là. Alors, t'as pas d'autre option que de construire un autre pont. Ben oui, il y en a pas des tonnes. Fagotier, oubliez ça, c'est pas une option, là. T'sais,
non, mais.
C'est pas une option.
J'allais juste te poser une question. Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas l'expertise? On va être plate, là.
Voilà. Bon, vas-y,
Est-ce qu'on n'a pas l'expertise au ministère des Transports pour évaluer un projet de cette ampleur-là, puis qu'il y a des entrepreneurs qui en profitent, puis qui te gonflent ça de d'aplomb?
Attends, je vais nuancer un peu.
Puis notre méthode d'octroi de contrat fait en sorte que ça coûte la totale.
Je vais nuancer un peu tes propos. Est-ce qu'il y a une absence d'expertise au ministère des Transports? Absolument. Le problème, c'est que c'est pas les entreprises qui peuvent appuyer sur le crayon, ça existe évidemment. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent construire ce type d'infrastructure parce que les exigences, par exemple, en matière de caution sont si importantes que des joueurs comme ça, il n'y en a pas des tonnes. Il y a les Pomerleau, il y a le EBC, il n'y en a pas des tonnes de joueurs comme ça au Québec. Alors, c'est pour ça que c'est toujours les mêmes soumissionnaires qui reviennent tellement qu'on est obligé de créer des consortium pour qu'on puisse construire des infrastructures de ce coût-là.
Mais la ministre a dit un peu la même chose que toi, Nathalie, puis elle est arrivée avec une phrase qui m'a surprise. Par exemple, elle dit, ben, on a ouvert les enveloppes, ça a donné 2,7 milliards, on était vraiment surpris, mais quoi si tu veux? Faut qu'on le construise, puis en ce moment, d'un coût de construction, c'est ça au Québec. Non, moi je pense que quand on ouvre l'enveloppe, ça dit 2,7 milliards, là, la phrase, ça devrait être, OK, on prend une pause, on va regarder. Peut-être qu'on va le reporter de 3 ans, par exemple.
Non, peut-être pas. Ben, Luc, dans 3 ans, ça va coûter encore plus cher.
Ben, oui, à cause de Hydro-Québec qui veut construire 5000 km de ligne puis qui va prendre 20% des ressources de construction du Québec. Mais, le pont, c'est pas vrai qu'il est en décrépitude. Le pont, il est hors norme. Il est pas en décrépitude. Est-ce que, par exemple, on pourrait dire, on va faire une approche de frugalité. On va dire, par exemple, oui pour les autos, non pour les véhicules lourds. Est-ce qu'on peut réfléchir? Est-ce qu'on pourrait réfléchir? Oui, mais est-ce qu'on pourrait réfléchir à, qu'on continue comme ça? Est-ce que,
donc, Luc, c'est complètement ridicule.
Mais c'est ridicule d'avoir du monde qui sont dans la rue puis qui n'ont pas de place pour dormir la nuit aussi, Nathalie.
Je suis d'accord avec toi, Luc. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si on pouvait régler tous les problèmes du monde, on le ferait, Luc.
Mais commençons par le bon, on s'occupera des itinéraires une autre fois.
Nos marges de manœuvre étant ce qu'elles sont, tu peux pas tout régler. Mais là, dans le cas du pont de l'île d'Orléans, Luc, là, il va avoir 90 ans l'année prochaine. Là. Quand je dis qu'il est en décrépitude, as-tu vu le pont de dernièrement? Là? Ce pont-là, là, il est vraiment pas en santé. Là. On dépense des millions de dollars. Depuis 2008, on a investi presque 40 millions pour rénover le pont, pour le rendre sécuritaire. À un moment donné, tu as beau étirer l'élastique, mais il y a toujours bien des limites à ce que tu peux faire. Là,
non, ça je comprends. Mais sérieusement, là, l'impression que ça donne, c'est que la CAQ veut tellement plaire à Québec que là, on le fait, puis peu importe
c'est en plein ça. Ils se sont fait. Le Québec s'est fait dire non pour le troisième lien. On comprend que la CAQ veut pas dire non une deuxième fois.
Puis je comprends qu'il y a une réalité pour les gens de l'île d'Orléans. Qu'est-ce que tu veux, là? C'est une île. Hein? Tu peux pas faire.
Exactement. OK. Mais c'est quoi l'option, là? Tu l'as dit, Luc, il y a d'autres options. Mais le ministre hier a dit, écoutez, on a tardé, là. Ils ont repoussé le projet, là, pour toutes sortes d'impératifs. Mais là, elle dit, on peut plus lui tirer, là. Puis elle dit, si on avait remis le processus de soumission en question, il aurait fallu qu'on recommence à zéro parce que autour du processus des règles d'appel d'offres,
moi j'en ai une option, Nathalie.
Auxquelles sont contraintes.
Moi j'en ai une option. Est-ce que vous acceptez un pont privé, c'est-à-dire où les résidents de l'île paieraient la moitié du vrai coût, c'est-à-dire autour de 20 $ par jour?
Ben, on va faire la même chose pour le pont de l'île Autoute. On va faire la même chose pour le métro de Montréal.
Métro,
on va faire la même chose pour, la même chose pour le nouveau REM. On va faire la même chose pour le tramway
dans
l'Est.
Les usagers du REM et du métro paient chaque jour. Okay? Ça, c'est déjà le cas. Est-ce que les automobilistes accepteraient de faire la même même chose?
Oui, mais ils ne paient pas le juste coût, par exemple.
Non, ils ne paient pas le juste coût.
C'est d'accord.
Je suis d'accord avec toi. Ils ne paient pas le juste coût. Est-ce qu'ils accepteraient d'en payer la moitié?
Mais ils paient déjà par des taxes et des impôts. Voyons donc, toi.
On s'arrête là-dessus.
Je pense que les citoyens de l'île d'Orléans...
Si on veut être payé, il faut que j'aille à la ponche. Tu comprends?
C'est 23.